France Culture.
Et les midi, deuxième partie, c'est parti normalement. À 13h tout à l'heure, j'aurai la joie de recevoir le romancier Pierre Lemaître. Et tout de suite, j'ai la joie de recevoir Marie Sorbier.
Bonjour Marie et bonjour à tous. À 80 ans, le compositeur de musique contemporaine franco-grec Georges Apergis poursuit avec vigueur sa recherche créative. Il présente ces jours-ci pas moins de 5 créations pour voix et orchestre dans le cadre du festival Présence. Et ses concerts sont diffusés en direct et en différé sur France Musique. Alors avant de rencontrer le maître, j'ai pu me glisser dans l'auditorium de Radio France pour les répétitions de Willy Willy, création mondiale pour voix égales. Georges Apergis, bonjour.
Bonjour.
Le festival Présence, nous y sommes là, nous sommes dans l'auditorium de Radio France. Ce festival va présenter 5 nouvelles œuvres. C'est quand même une grande période créative pour vous.
Oui. C'est des pièces qui... Par exemple, la pièce pour trompette qui s'appelle Trompe-oreille. Je l'avais commencée il y a très longtemps, mais ça m'a obligé plus ou moins de la finir et de travailler sur l'électronique qui va avec. Donc voilà, il y a d'autres pièces que j'ai décidé de faire juste parce que j'ai trouvé ça enthousiasmant, quoi. Par exemple, travailler avec la maîtrise. Donc voilà, je ne me suis pas trompé parce que hier la répétition était super. Donc,
Vous parlez de la maîtrise, c'est vrai que vous dites d'ailleurs pour vous que l'orchestre, vous le qualifiez de contrée inconnue. Qu'est-ce que ça change pour vous de travailler avec un orchestre?
Un orchestre, c'est quand même une... Il y a d'autres données, si vous voulez. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas beaucoup de temps pour que les musiciens apprennent la pièce et qu'ils comprennent un petit peu qu'est-ce qu'ils font dedans et pourquoi ils le font. Il y a ce manque de temps, donc on ne peut pas écrire de la même façon que pour la musique de chambre, par exemple. Donc il faut marcher un peu le tout pour que ça aille vite. À part ça, évidemment, c'est des masses sonores, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre ailleurs. Et il y a des dangers, évidemment, dans l'orchestre, parce que l'orchestre induit un peu une espèce de dramaturgie à lui, qu'on connaît, du 19e, etc. Et donc, comment essayer de jongler avec ça pour ne pas refaire la même dramaturgie toujours, les mêmes montées, les mêmes... Voilà. Et comment le traiter autrement, peut-être avec des moments de soliste aussi. Parce que je pense beaucoup aux musiciens qui sont d'excellents musiciens et qui s'expriment tous ensemble, mais rarement en solo. Donc, voilà.
Vous parlez de dramaturgie, c'est intéressant. Qu'est-ce qui déclenche chez vous l'envie d'une création, justement? C'est une dramaturgie, c'est un son particulier, une émotion? Comment vient la création?
Ça dépend des pièces. Il y a des pièces, c'est juste développer une couleur. Par exemple, dans les études pour orchestre, chaque étude a un sujet, enfin, un problème que je me pose. Et donc, ça peut commencer comme ça. Ça peut commencer par qui joue la pièce, si je le connais ou si je fais sa connaissance. Qu'est-ce qui m'amène en étant là? Quelqu'un que je ne connais pas, par exemple, ou quelqu'un que je connais depuis longtemps. Enfin bon, tout ça joue beaucoup pour moi, les rencontres. Et puis, il y a plein de questions que je me pose depuis 60 ans que j'écris, et donc qui restent là. Il y en a que j'ai avancé un petit pourcentage, d'autres pas du tout. Elles sont là toujours. Donc, si la pièce le permet, je m'attaque à ces questions auxiliaires, quoi, qui sont importantes pour moi.
Par exemple, quelle est la question qui vous a occupé en ce moment?
Mais par exemple, là, c'était pour Willy Willy, par exemple, pour la pièce pour la maîtrise. Bon, c'était entre les consonnes parlées et comment on arrive au chant. Et puis surtout que ça tourne entre les différentes voix, comme un tourbillon un petit peu, mais qui s'efface aussi. Là, je pensais beaucoup à la mélodie, c'est-à-dire de comment on peut tourner autour de la même mélodie très simple du début à la fin, même si ça s'amplifie peu à peu. Il y a des polyphonies qui naissent, mais il y a une mélodie quand même qu'elle n'est pas reconnaissable, mais on la sent qu'elle est là, elle est présente.
On dit volontiers de vous que le second degré est un de vos matériaux de composition. Comment cette dimension ludique ou ironique s'articule-t-elle dans votre écriture musicale, Georges Apparis?
C'est prendre une certaine distance par rapport aux pièces. C'est-à-dire que la pièce, c'est pas moi. Elle a sa propre vie qu'il faut respecter. Parce qu'une fois qu'il voit qu'il y a quelques pages décrites, la pièce commence à respirer et elle va quelque part. Donc, est-ce qu'il faut qu'elle aille là où elle va, ou est-ce qu'il faut lui changer? Est-ce qu'il faut, au contraire, se lancer dans l'aventure? Parce qu'il y a des choses qui arrivent qu'on n'avait pas prévues. Donc, ça, c'est le plus intéressant, en fait. Donc, c'est des problèmes supplémentaires, quoi. Donc, voilà. Et donc, le second degré, pour moi, c'est une distance par rapport à la pièce. C'est aussi, parfois, quand les choses deviennent trop tragiques ou pathétiques, quand il y a des moments qui peuvent un peu accabler l'auditeur, comment tout d'un coup dire, mais la vie continue, enfin, il y a autre chose dans la vie, comment la donner de l'énergie positive, disons, pour pouvoir de nouveau s'enfoncer dans le noir. Mais il faut qu'il y ait les deux, quoi. Il faut qu'il y ait, voilà.
Vous êtes né à Athènes. Dans le Festival Présence, il y a plusieurs musiciens et compositeurs grecs qui sont là. Oui. Quelle est la place pour vous de la musique contemporaine grecque? Est-ce que la Grèce vous inspire encore et est-ce que vous écoutez cette musique-là?
Mais je connais les jeunes compositeurs, compositrices, beaucoup. Il y a pas mal de compositrices de grand talent, hein, grec. Et donc, j'ai pensé que mon devoir était de les promouvoir, pas parce qu'ils sont grecs, mais c'est parce qu'ils sont bien. Et puis parce qu'en Grèce, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Donc, ils sont en France, aux Pays-Bas, en Italie, en Suisse. Bon. Et c'était pour montrer un peu cette jeunesse qui se pose des questions intéressantes et les pièces sont, vous allez voir, sont assez brillantes, en fait. Donc,
voilà. À découvrir.
À découvrir.
Vos partitions sont portées pendant ce festival par une jeune génération aussi de musiciens français. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette appropriation par des jeunes générations de votre musique?
Moi, j'étais très content parce que c'est bon. J'ai eu plusieurs familles, hein, parce que ça fait longtemps que j'aime beaucoup. Et les familles s'agrandissent peu à peu. Et là, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, beaucoup grâce à Pierre, à Charvet et à Bruno. C'est eux qui me l'ont fait connaître. Et là, on s'entend très bien, on est devenus très copains. Donc la famille s'élargit, et tant mieux.
Merci beaucoup, Georges Apparis.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une performance réalisée par des étudiants à la Haute École des Arts du Rhin de Mulhouse suscite une vive polémique.
Oui, réalisée lors de la restitution d'un atelier sur le thème du carnaval, cette performance mettait en scène des étudiants en train de frapper une piñata géante en forme de voiture de police. À l'intérieur se trouvaient des coupures de presse sur des faits de violence policière. Il aura fallu attendre moins d'une heure pour que la police débarque sur place et que la mairie de Mulhouse ouvre une enquête. Depuis, de nombreuses personnalités politiques se sont emparées du sujet. Bruno Retailleau a ainsi déclaré sur X, je le cite, « Voilà où mène l'idéologie d'extrême-gauche qui gangrène une partie de nos institutions », fin de citation, tandis que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a qualifié la performance d'inadmissible. De son côté, le directeur de l'école a rappelé que cette action menée par ses étudiants s'inscrivait dans le cadre d'une expression artistique et ne relevait en rien d'une position idéologique.
Toujours mieux, direction les États-Unis à présent, où le banquet de Platon a été censuré par l'Université du Texas.
Martin Peterson, professeur de philosophie, prévoyait ce printemps de faire lire à ses étudiants un extrait du banquet de Platon dans lequel Aristophane relate le mythe des androgynes, ces êtres à deux sexes. Sauf que depuis cet été, l'Université du Texas a mis en place un contrôle des descriptifs des cours via l'intelligence artificielle pour vérifier qu'il n'y a aucune promotion des théories de genre ou de race. Il a donc été demandé à Martin Peterson de retirer son cours sur les passages de l'œuvre de Platon. Face à cette censure, le professeur a décidé de traiter à la place la question de la liberté d'expression. Pour rappel, l'association PEN America a recensé l'an dernier près de 7000 bannissements d'ouvrages dans les écoles américaines.
Et pour finir, Marie, une peinture de Gustave Caillebotte vient de faire son entrée au musée d'Orsay à Paris.
Oui, peint en 1879, Autoportrait au chevalet représente le peintre Gustave Caillebotte dans sa trentaine en train de peindre une toile dans son atelier. Une œuvre reçue par le musée d'Orsay grâce au système de dation qui permet de payer ses droits de succession par le don d'une œuvre d'art à l'État. Cette peinture sera exposée à Orsay à partir du 17 février prochain.
Merci Marie, on se retrouve demain.
Merci, à demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.